Il y avait parmi les pharisiens, donc c'est le Jean 3, un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu ne fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Et tout à l'heure, en témoignage de Marilyn, vous avez remarqué que sa collègue avait beau la harceler tous les jours avec son message, eh bien, c'est en pleine rue que d'un seul coup, tu as eu la conviction que tu devais aller dans cette église, en tout cas, qui t'a poussé. C'est l'action du Saint-Esprit. Je voudrais parler sur le Saint-Esprit suite au message de Pentecôte. Hein, nous venons juste d'avoir la fête de Pentecôte. Donc là, je n'ai pas le temps de délivrer tout le message que je voulais vous apporter. Mais ce qui m'a interpellé ces derniers temps, c'est comment est-ce que nous traitons le Saint-Esprit ? Comment est-ce que nous comprenons l'action du Saint-Esprit ? Comment nous, qui dans notre famille pentecôtiste charismatique, qui mettons l'accent sur le Saint-Esprit, comment est-ce que nous envisageons de voir l'aspect du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité? Et ce qui m'a interpellé, c'est, vous savez tous maintenant que un des livres de référence que j'ai donné à la plupart d'entre vous, d'ailleurs ceux qui viendront à l'université d'été prochainement, là, en juillet, j'ai encore des exemplaires sur ceux qui n'auraient pas. Parce que je considère que Christian Schwarz, qui est un docteur, un théologien en Allemagne, qui justement était poussé à essayer de comprendre comment l'Église, la croissance de l'Église. On parle beaucoup de croissance de l'Église, hein. Comment est-ce que l'Église se multiplie, hein. Nous savons que, bien sûr, notre mission, hein, c'est d'annoncer l'Évangile. Et le rôle de Dieu, c'est d'amener les personnes à la nouvelle naissance. Hein. Si notre manière d'évangéliser et de faire entrer des gens dans l'Église, c'est juste le nombre, nous sommes à côté de la plaque. Mais très souvent, c'est ce qu'on fait, même sans le vouloir. Donc ce qui est important, c'est de savoir comment le Saint-Esprit il agit et comment nous, on doit se positionner par rapport au Saint-Esprit. Ça, c'est une des préoccupations qui m'interpelle et dont j'aurai aussi l'occasion d'en parler à l'université d'été en juillet. Christian Schwarz insiste dans son petit livre sur la Trinité. Et vous savez que avec Jésus, en particulier dans l'évangile de Jean, pour lequel j'ai lu un extrait, dans Jean 17 et dans tout l'évangile de Jean, Jésus révèle le Père. La Trinité est quelque chose qui est déjà dans l'Ancien Testament. Hein, très souvent, ce qu'on appelle les théophanies. Hein, les théophanies, c'est les manifestations de Dieu, les interventions de Dieu, déjà Abraham et d'autres, etc. On voit que souvent, il y a trois personnes, hein, qui sont présentes dans ces théophanies. Donc, les trois personnes, elles sont présentes, mais ce sont des mystères. Et ça reste un mystère aujourd'hui, hein, même si le concile de Nicée, qui s'est réuni en 423, je crois, a défini la Trinité, ça reste un mystère. Parce que le Shema Israël, hein, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. C'est le fondement. L'Éternel est un et en même temps il y a trois personnes. Donc comment comprendre cela? Mais en même temps, c'est le fondement de toute la doctrine chrétienne et en particulier des pentecôtistes dans les années 40 qui ont été déclarés comme hérétiques, hein, c'est clair, mais ils ont nié un peu cette trinité. Parce que comme c'est difficile à comprendre, ben, voilà, on veut que l'Éternel soit un, oui, mais en même temps, il y a cette trinité où Jésus révèle le Père. Et Jésus est en relation avec son Père. Et grâce à cette relation avec son Père, il peut accomplir sa mission. Et qu'il dialogue avec son Père. Et que grâce à ce dialogue, ça lui donne la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et rappelez-vous, dans Gethsémané, il a dit, Père, que cette coupe, si elle peut s'éloigner, elle s'éloigne, mais sinon, je veux faire ta volonté. Et vous voyez cette relation entre Jésus et son Père, qui est fondamentale dans la doctrine chrétienne. Le christianisme est très particulier. C'est le seul et l'unique religion dans le monde entier qui parle de cette trinité. Il y a le polythéisme qui parle bien sûr de trois dieux, voire de quatre, mais le chiffre 3, on appelle ça une triade, hein, au lieu de parler trinité, on parle de triade, les trois dieux. La triade capitoline, par exemple, les Romains, il y avait Jupiter, Junon et le troisième, je ne sais plus. Pardon ? Non, Mars, c'était un quatrième, mais les trois, c'était deux femmes, enfin deux déesses, quoi. Jupiter, Junon et Minerve, je crois. Enfin bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a toujours une triade. Hein, en Égypte, il y a Osiris, Isis et Horus. Hein. Il y a cette triade. Il y a une sorte de copie de la Trinité. Mais ce n'est qu'une copie. Ce sont des dieux qu'on adore, que sont des images mentales qu'on vénère, que l'homme élève à la position de dieu et de déesse. Mais dans la croyance, dans la doctrine chrétienne, il y a un seul dieu, mais il y a trois personnes. Le premier concile, d'ailleurs, n'a pas parlé de personne, il a parlé d'hypostases. Les hypostases, ce sont des soutiens, des soutènements. Ces trois personnes sont des soutènements de la divinité. Et donc, en fait, on a la notion de communauté, de dialogue, de relation. Et c'est tout un Dieu en relation. Dieu veut avoir une relation avec l'être humain. Regardez dans Genèse, quand l'homme a été créé, à l'instant où il a été créé, tout de suite derrière, on voit que Dieu, tous les jours, s'entretient avec Adam. Et Ève vient dans le jardin. Et malheureusement, après le péché, eh bien, c'est Adam et Ève qui se sont cachés de Dieu. Il ne leur fait pas reproche, il dit simplement, où es-tu ? C'est la honte qui est venue se placer dans cette relation avec Dieu qui a coupé cette relation. Et quand on vient au Seigneur et qu'on reçoit le Saint-Esprit, on refait ce lien, hein, cette relation qui est coupée, eh bien, à nouveau est rétablie. Et c'est ça, le christianisme, c'est de rétablir une relation avec Dieu. Donc cette notion de Trinité est en même temps capitale et en même temps pour beaucoup complexe, compliquée. Voilà. Et comme c'est compliqué, personne ne veut s'embêter dans la vie avec des choses compliquées. Donc tout le monde veut que ce soit facile. Donc tout le monde cherche la facilité, mais du coup, on passe à côté d'un bénéfice que seul le christianisme nous offre. Voyez. Donc parfois, ça vaut le coup quand même de chercher un petit peu plus des choses plus compliquées, pour éviter de passer à côté de choses qui nous sont préparées d'avance. Donc beaucoup de gens considèrent que cette doctrine est compliquée, mais ce qui est important, ce n'est pas de savoir si elle est compliquée, c'est de savoir si elle nous apporte quelque chose et si elle contient une puissance de révélation. C'est comme l'atome, hein. Si je vous faisais un cours de l'atome, d'ailleurs je ne pourrais pas, je n'ai pas les compétences, mais c'est compliqué, les électrons qui tournent autour, etc. Or aujourd'hui, grâce à ces connaissances, on a maintenant les technologies et bientôt des ordinateurs atomiques, puisqu'on veut les réduire en taille, ce n'est que par l'atome qu'on va pouvoir y arriver pour faire des ordinateurs de plus en plus petits. C'est grâce à toute cette connaissance qu'aujourd'hui on a ces technologies. Et c'est compliqué. Mais ça donne une puissance de résolution de problèmes quand on essaie de les capter. Donc je vous invite à ne pas passer à côté de cette réalité et d'essayer de les comprendre. Le Dieu que nous connaissons de trois manières. Parce qu'en fait, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent, comme la Bible le dit, eh bien, notre expérience de Dieu peut être une expérience justement beaucoup plus vaste que simplement avec le Saint-Esprit, ou avec Jésus, ou avec Dieu le Père, le Créateur. Et Christian Schwarz justement explique que c'est à cause de ça qu'il y a trois catégories de chrétiens, des grandes disciplines chrétiennes, les libéraux, les évangéliques non charismatiques et les charismatiques. Et du coup, on a l'impression qu'on adore trois dieux différents. Les charismatiques adorent le Saint-Esprit, et même des pasteurs que je connais qui disent « Je vais adorer que le Saint-Esprit ». Ok, je ne sais pas où ils trouvent ça dans la Bible, mais c'est des pasteurs. Hein. Donc, je n'invente rien, hein. C'est des expériences que j'ai, qui sont connues. D'autres qui veulent être que sur la doctrine de Christ. Donc ça s'appelle la christologie, hein, les évangéliques libres en particulier insistent beaucoup sur la doctrine de Christ, et c'est important. Hein, mais la doctrine de Christ ne nous donne pas la pleine révélation de Dieu. Et les libéraux sont plus axés sur la création, hein, sur les aspects créationnels de Dieu, qui sont importants aussi et vrais. Mais c'est les trois, l'expérience du Père, du Fils et de l'Esprit, qui sont importantes en tant que chrétiens. D'une part, pour être équilibré dans notre foi. D'autre part, pour avoir des contacts avec tous les chrétiens. Je ne vois pas pourquoi les chrétiens non charismatiques seraient des chrétiens de moindre importance ou des classes basses, vous voyez, et puis les charismatiques seraient là. Et ça leur monte à la tête. Je crois qu'on vit, et ça c'est Christian Schwarz, hein, ça, vous lisez son livre, et c'est lui qui fait un constat sur le monde entier de ces aberrations chrétiennes, évangéliques, hein, je parle particulièrement, qui coupent les uns des autres parce qu'on s'attache à une personne de la Trinité. Mais les trois sont aussi importantes, le Père, le Fils et l'Esprit. Le problème de l'Esprit, c'est un peu plus difficile, bien sûr, que Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a vécu comme un être humain, comme toi, comme moi, sur la terre et tout ça. Donc on peut l'identifier, les évangiles parlent de qui il était, comment il s'est comporté, ce qu'il a fait, etc. Donc on s'adresse à Jésus, on pense qu'à Jésus, oui, c'est bien. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a justifiés, il a porté la justification par l'œuvre qu'il a fait. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas d'être justifié. Il faut aussi être transformé. Est-ce qu'il y en a qui veulent être transformés ? Ben oui. La justification, c'est bien, on est juste devant Dieu, mais après, il y a toute une transformation. Hein ? Marlene, tu as dû être transformée aussi. Hein ? Et on continue à être transformé. Transformation s'appelle la sanctification. C'est de s'approcher du Seigneur pour changer nos comportements naturels, parce qu'on reste naturel. Il n'y a ici que des anges. Il y a quelqu'un qui est assis ici qui n'est qu'un... Ça peut arriver. Hein. Non, mais... Je respecte s'il y a un ange ici. Mais si vous êtes un être humain, vous en êtes conscient, eh bien, vous avez besoin d'être transformé. Et qui est-ce qui fait cette transformation ? Ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Donc le Saint-Esprit a un rôle important. Et on ne peut pas, parce que on ne peut pas l'imaginer comme Jésus, comme un être humain, le mettre, disons, s'en servir. Hein. C'est un peu ça l'idée. C'est que le Saint-Esprit très souvent s'en sert, hein. Parce que on met les dons du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que les dons. Le Saint-Esprit, c'est l'agent qui nous fait entrer dans notre destinée. Vous voyez, c'est beaucoup plus vaste que les dons. Les dons en font partie. Mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous faire entrer dans la destinée une fois qu'on a accepté Jésus comme celui qui nous sauve et qui nous justifie. Parce qu'il est venu pour une chose, Jésus, sur terre, c'est quoi ? Pour régler la question du péché. Il est venu pour régler la question du péché. Il est devenu péché pour nous et à la croix, quand il est mort, eh bien, il a réglé une fois pour toutes la question du péché. Vous voyez ? Mais le Saint-Esprit a un autre rôle. Et le Père encore a un autre rôle. Le Père, personne ne l'a vu, le Père. Jésus l'a fait connaître par sa relation avec son Père. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc vous voyez, c'est déjà un peu plus concret que le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, alors très souvent, on le prend comme une puissance. Il est une puissance, mais il n'est pas que puissance. Hello ? Le Saint-Esprit est un paraclet, le paraclet, dans le grec. Le paraclet, c'est un assistant, il nous assiste, il nous aide. C'est pas quelqu'un qui nous aide comme un esclave hein, qu'on fait bosser. Hein. C'est quelqu'un qui nous aide à rentrer dans l'appel et la destinée que le Père a pour nous. Les chrétiens, les premiers chrétiens, parce qu'on tous on veut être comme les premiers chrétiens, je vous rappelle qu'ils avaient une triple expérience de Dieu. Ils vivaient une triple expérience, donc cette expérience de la Trinité. Comme Dieu nous a créé son image, nous pouvons aussi appliquer cette expérience dans chacune de nos vies. Et c'est tout simplement bien la vision de l'Église qu'on reprendra un petit peu à l'université d'été pour que vous la compreniez un petit peu mieux, simplement parce qu'elle est trinitaire. Je termine juste, et là je donne juste le plan de ce message, c'est que on connaît le Saint-Esprit par des symboles. Jésus, on le connaît par une personne. Jésus qui a marché sur la terre. Le Père, on le connaît parce qu'il y a la relation père-fils qu'on peut imaginer facilement, puisque dans le naturel, on sait ce que c'est qu'un père, un fils. Voilà. Donc le Père, on peut l'imaginer. Le Saint-Esprit, il y a des symboles. Le symbole, c'est quoi ? C'est si je prends un vase, je ne vais pas le faire, je le jette par terre, il va être, mettons, en deux morceaux. Je vais prendre un morceau, et l'autre, je vais le cacher. Et je vais dire, trouvez-moi l'autre morceau et on va mettre le vase ensemble. Ça s'appelle un symbole. C'est le symbole. C'est le symbole, c'est ça. C'est mettre deux morceaux ensemble pour les recomposer tel qu'il était au départ. Donc le symbole, c'est que quand la Bible utilise un symbole pour l'esprit, il renvoie à une réalité qui est cachée. Et si vous la trouvez, c'est l'appel la révélation, eh bien, vous avez la vraie réalité. Et la réalité, c'est le vase. Mais si vous n'avez qu'un morceau, vous n'avez que le symbole. Il faut chercher l'autre morceau. Et les symboles de l'esprit, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on connaît le Saint-Esprit, les symboles de l'esprit, c'est le vent. Et où le vent souffle où il veut. Donc Jésus utilise le symbole du vent pour signifier l'œuvre de l'esprit. C'est l'eau. L'eau. C'est un des symboles, ça renvoie à l'eau de la vie éternelle. L'huile. L'huile, c'est un symbole de l'esprit. C'est pour ça qu'autant qu'il purifie, on utilise l'huile. Et on appelle les personnes qui utilisent l'huile les consécrateurs, parce qu'elle est utilisée, et je reviendrai sur cet enseignement plus tard, quel est le rôle de l'huile. Le feu. Le symbole du feu. Saint-Esprit, c'est des langues de feu qui sont venues à la Pentecôte. Et le feu, eh bien, a une vocation de purifier, mais aussi une vocation de juger. Donc, vous voyez, Saint-Esprit a beaucoup de fonctions. Le symbole de la colombe qui descend sur... Voilà, elle est là, la colombe qui descend sur Jésus. La pureté, la colombe qui renvoie à la non-duplicité, qui est la fonction de Satan, qui est d'être double. Le diable, c'est double. Zweifel, c'est tout. En allemand, c'est Dieu. Et le sceau, on a parlé du sceau ce matin. Saint-Esprit est un sceau. C'est-à-dire quelque chose qui met sur notre cœur et qui fait de nous naître pour l'éternité. Et enfin, il y a aussi les arts. Le Saint-Esprit, on utilise le symbole de les arts de l'esprit. C'est-à-dire que l'héritage, nous l'avons aujourd'hui pour l'éternité. Et c'est pour ça que rien ni personne peut nous retirer de la main du Seigneur, quand on lui a donné notre cœur et quand on a passé par les eaux du baptême et qu'on on a scellé notre union avec lui, il met le sceau du Saint-Esprit. Voyez-vous. Donc voilà, je vous donne juste les grandes lignes de ce message. Il faudrait voir chaque fois les versets, on le fera plus tard. Mais pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas juste la puissance qui donne les dons, qui donne de pouvoir prophétiser, de machin, etc. Non, c'est l'ensemble de toutes ces fonctions que le Saint-Esprit assure pour faire de nous des chrétiens qui ne sommes pas appuyés sur nos forces, mais sur ses forces. Et c'est lui qui fait en nous cette œuvre, à condition que nous le laissions agir. Amen. Alors prions un instant pour que le Saint-Esprit, nous ne le prenions pas comme un valet qui doit faire ceci, cela, mais que nous respections comme Dieu lui-même. Seigneur, merci. Parce que tu es celui, Seigneur, c'est un mystère, c'est vrai, de cette Trinité. Mais Seigneur, nous voulons vraiment apprendre à respecter ce que toi tu fais et nous incliner devant toi, Seigneur, pour ne pas imposer nos points de vue, notre manière de voir ou d'adhérer à une pensée unique, même si elle est chrétienne. Mais Seigneur, nous voulons être régénérés par ton esprit afin que la révélation de qui tu es puisse nous transformer et que nous puissions vraiment marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Nous te prions au nom de Jésus.